France Culture.
À voix nue, Caroline Brouet,
Philippe Aguillon, économiste, professeur au Collège de France.
Bonjour Philippe Aguillon.
Bonjour Caroline.
Premier épisode du Petit Prince à Fanny et Alexandre. On va comprendre pourquoi. Je suis contente déjà de faire ces avoinues avec vous, Philippe Aguillon, parce que déjà je suis contente de pouvoir vous bloquer pour 5 entretiens de 30 minutes avoinues, parce que depuis le 13 octobre 2025, date à laquelle l'Académie royale des sciences de Suède vous a décerné à vous et à vos collègues Joël Mokyr et Peter Howitt, le prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel, qu'on appellera dans la suite de ces émissions le prix Nobel d'économie.
Voilà.
Remis pour vos travaux sur le rôle de l'innovation dans la croissance, on peut dire que vous avez entamé une course de fond médiatique sans évidemment arrêter de travailler. Mais l'hyperactivité, c'est peut-être l'un de vos points forts. Comme vous avez à cœur de le faire, on va prendre ici le temps de raconter votre parcours, souvent qualifié d'atypique, et d'expliquer comment vous, fils d'un marchand d'art militant communiste et d'une styliste de mode, tout devenu d'Égypte, êtes devenu cet éminent chercheur en économie, ardent défenseur de l'innovation, théoricien de l'innovation par la destruction créatrice, militant communiste dans votre jeunesse, passé inspirateur du programme économique du futur président Emmanuel Macron, avant de prendre vos distances, mais de rester un fervent soutien du modèle scandinave. Tout ça, donc, pendant 2h30 toute la semaine. Vous êtes né, on va commencer par le début, bien évidemment, vous êtes né le 17 août 1956, alors à Paris. Mais pour un peu, Philippe Aguillon, vous auriez pu naître à Alexandrie, où vivaient vos parents, avant de fuir le pays à Rome, en Italie, où vous avez été conçu. Donc, vous êtes issu d'une famille d'une grande bourgeoisie égyptienne.
Oui, c'est ça. Enfin, du côté de mon père, c'était la grande bourgeoisie égyptienne. C'était des banquiers du coton. C'était une riche famille juive d'Alexandrie, qui était en même temps des mécènes. Ils avaient créé des écoles, des hôpitaux pour des familles juives modestes de la ville. Donc ça, c'était la famille de mon papa. Et du côté de ma mère, le père de ma mère était directeur d'une usine de cigarettes, voilà. Mais c'était du côté de mon père qui était la grosse bourgeoisie juive égyptienne.
Et les deux parents s'étaient rencontrés à l'école ?
Ils se sont rencontrés au cours préparatoire, à l'âge de 7 ans. Ah, et ils ont fait toute leur classe ensemble, jusqu'au bac.
Donc, vos parents sont à Alexandrie, mais vous n'êtes pas né à Alexandrie. Je disais que vous étiez conçu à Rome et que vous êtes né à Paris. Racontez-nous l'histoire de cette famille, enfin, tous les cas de vos parents.
Mes parents, en fait, mon père, lui, vient d'une famille très riche, amateur d'art, voilà, une grande famille, hein. Mais ils sont entourés de misère, d'analphabétisme, et lui se révolte quelque part, voilà. Et en Égypte, les gens des familles pauvres ne vont pas à l'école, vivent dans une grande pauvreté, et il est scandalisé par les inégalités criantes qu'il voit autour de lui. Et donc, il est très attiré par le mouvement communiste, par l'espoir du communisme, qui est l'espoir d'un monde plus égalitaire. Hein. La social-démocratie, ça n'existait pas à l'époque. Donc, il essaie de créer un mouvement communiste en Égypte. Il a un autre cousin qui s'appelle Henri Curiel, qui lui aussi a créé un mouvement communiste, qui lui est au Caire. Et mon père est très proche des surréalistes égyptiens, parce qu'il dit que le surréalisme, c'est un moyen de critiquer la culture bourgeoise sans avoir à être alphabétisé, quoi. Tu peux directement critiquer la culture bourgeoise sans être alphabétisé. Vous voyez, vous avez sous vos yeux Art et Liberté. Ça, c'est le surréalisme égyptien. Entièrement. Et mon père, il y a un manifeste du surréalisme égyptien. Donc mon père est très proche de ces gens-là. Par exemple, des écrivains comme Albert Cosseri, comme Edmond Jabès seront très proches de ce mouvement. Et puis, donc, il décide de venir à Paris en 1945 et d'être proche des surréalistes en France. C'est pour ça que vous verrez dans l'entrée, il y a un livre d'Aragon qui est dédicacé à mon père, il y a un livre d'Éluard qui est dédicacé à mes deux parents. Ils sont proches d'Aragon, d'Éluard, de Zara. Moi, j'ai rencontré Zara dans mon enfance. J'ai connu Aragon, évidemment. Mais ils viennent en 45, donc eux viennent avant Suez, l'épisode de 56. Le reste de la famille, eux, quittent l'Égypte après Suez, voyez, parce que les choses deviennent plus compliquées pour la communauté juive égyptienne. Mais mes parents, eux, quittent l'Égypte dès 45, parce qu'ils pensent qu'ils veulent pas les coloniaux et qu'ils veulent être près des surréalistes. Et donc, ils viennent en France. Mais ce qui se passe, c'est que c'est la guerre froide. Et donc, mon père, qui est réfugié égyptien, on veut le déporter en Corse. Et en fait, mon père prend les devants et part en Italie, où il a une tante italienne, et grâce à ça, il peut devenir italien. Et il reste en Italie pendant 4 ans. Alors, c'est de 52 à 56. Mais ma mère, entre-temps, a fondé Chloé en 52.
Attendez, vous allez trop vite. En besogne, votre mère, styliste de mode, crée Chloé, crée Chloé
et crée le prêt-à-porter de luxe, en fait.
Donc, voilà. Vous avez grandi.
Donc, mon père s'installe en Italie en 52. Ma mère, donc, il doit quitter la France. Ma mère fait la navette entre Paris et Rome, puisque les collections, elle les fait à Paris, mais elle va voir mon père à Rome. Je suis conçu à Rome en... ben voilà, quoi. Donc,
fin
55,
avant.
Début 56, je sais pas, il faut 9 mois, donc, hein. Et juste avant ma naissance, mon père avait un ami qui s'appelait Louis Vallon, gaulliste de gauche, qui connaissait Mitterrand, alors ministre de l'Intérieur. Il obtient que Mitterrand signe un décret qui autorise mon père à rentrer en France. Et donc, in extremis, mes parents rentrent en France un mois avant ma naissance. Et donc, je nais à Boulogne-Billancourt. S'il n'y avait pas eu Mitterrand et Louis Vallon, je serais italien. Vraiment italien d'Italie, quoi.
Parlez-nous de votre père, Raymond,
oui.
Que vous aimiez beaucoup.
Énormément.
On voit déjà, vous avez dit dans l'entrée, vous verrez. Y a
ah, ici, c'est abusé pour mon père.
Voilà, il y a des tableaux, on est chez vous, hein, à Paris.
Et j'adorais cet homme.
Tableaux au ouais. Mur, beaucoup d'art, des tableaux d'art contemporain
oui.
Et classique.
Oui.
Voilà.
Donc, c'est
et
un
surréaliste,
homme,
bien sûr.
Voilà. Donc, c'est un homme qui a été très proche donc, des surréalistes. Et donc, il était communiste, proche des surréalistes.
Alors, il est resté à Paris.
À partir du moment où il a pu rentrer en 56. Et donc, il est resté à Paris tout le temps après.
Non, mais je veux dire, il est resté proche des surréalistes et communistes, même à Paris, après 56.
Alors, en 56, on lui dit pas de politique. Donc, il ne fait plus d'activité communiste. Donc, il est marchand de tableaux. Les gens viennent chez lui demander des conseils. Zara, moi, je me rappelle dans sa galerie de tableaux qu'il avait entre 56 et 66. Il venait tout le temps lui rendre visite. Il était très proche du peintre surréaliste Matta. Ils sont allés ensemble à Cuba en 64. Matta était son grand ami, toujours. Et puis Zara venait le voir. On passait des vacances chez Zara, en Bretagne, l'été. Et j'ai connu Claude Sarraute quand elle était mariée au fils de Zara. Voilà. Et donc, voilà, donc c'est ça. Donc, mais plus de politique. Mais mon père était surveillé par la police. Une fois, il vient chercher à la gare de Lyon le numéro 2 du Parti communiste italien qui s'appelait Giancarlo Pajetta, qui était le bras droit de Berlinguer. Et la police contacte mon père. On lui a dit « On vous a dit pas de politique ». Mon père a toujours été suivi par la police jusqu'à la fin de sa vie.
Qu'est-ce que vous en avez gardé de cette relation avec votre père, aussi bien de cette dimension un peu secrète de ses activités politiques que cet amour de l'art? Alors l'amour de l'art, il est plus évident chez vous, puisque encore une fois,
oui,
il y a
voilà.
Des tableaux au mur partout.
Oui, ils sont là, voilà, exactement. Écoutez, c'est un homme, il m'a appris, on y reviendra après, il m'a appris à écrire le français, il m'a mis la lecture, c'est quand même lui qui m'a ouvert à la culture, quoi. Donc c'est à l'art, à l'écriture, donc c'est quelqu'un qui a joué un rôle très important, voilà.
C'était très
proche. Et c'est, la langue française, pour lui, c'était quelque chose de très important, il écrivait très bien le français. Voilà, puis c'était toujours intelligent, mon père était un homme d'analyse, donc par exemple la géopolitique m'a toujours passionné, parce qu'on en parlait toujours avec mon papa. Puis c'est un homme d'une grande droiture, d'une énorme générosité. Enfin, c'était un être d'exception, absolument.
Pendant 10
J'adore
ans,
mon père.
Pendant 10 ans, Philippe Aguillon, on peut dire que vous avez été comme un petit prince, le fils
J'ai
chéri.
J'ai eu une enfance absolument dorée. De 0 à 10, c'est une enfance dorée. C'est pour ça qu'on parlera de Fanny Alexandre. Dans Fanny Alexandre, il y a toute la période rouge. C'est la tapisserie rouge.
Fanny
mais la rouge, rouge par rouge révolutionnaire. C'est du rouge Bordeaux, c'est du rouge chaleureux, quoi. C'est du rouge...
Vous parlez de la réalisation de Bergman.
Vous voyez, le film de Bergman. Et j'ai eu une période comme ça. C'est une enfance absolument dorée. C'est l'enfant roi. Je peux dire ce que je veux. Je peux parler à table comme je veux. Je peux interrompre les adultes comme je veux. Je peux mettre tous les disques que je veux. Le tourne-disque m'appartient. Et il y a tous les disques qu'on m'achète ou qui sont déjà là. Vivaldi, c'est déjà là. On m'achète Pierre et le Loup, on m'achète Le Petit Prince. Je peux mettre ce que je veux. Je suis le roi. Il y a la galerie de mon père où on va, où il y a tous les amis de mon père. Ils invitent à dîner chez eux des grands intellectuels, la femme d'Éluard, Zara, l'avocat de Ben Barka. Où ces gens viennent dîner à la maison. Pierre Courtade, des grands. Et moi, je peux parler avec eux comme un petit garçon. Et je suis toujours l'objet d'émerveillement ou l'objet d'attention.
Vous êtes là
voilà.
Du côté de votre mère, il y a un personnage important, c'est Karl Lagerfeld.
Oui, mais il arrive quand j'ai 8 ans, hein, Karl. Il n'arrive pas tout de suite.
C'est
voilà.
Dans les 10 premières années.
Mais c'est quand même les 10 premières années. Et c'est toujours un homme adorable. Il a toujours été adorable avec moi. Après, il m'aidera à faire mes devoirs d'allemand, ce qui fait que je n'ai pas appris beaucoup d'allemand. Et lui aussi, enfin, j'étais fasciné par lui parce qu'il avait toujours beaucoup d'esprit. Il pouvait être assez acerbe sur les gens, mais c'était quelqu'un de très intelligent et très acerbe et avec moi toujours très, très paternel, très sympathique.
Donc, une enfance dans les 10 premières années, oui, autour de la créativité, de la
création.
Voilà,
du côté de mon père, donc les tableaux, et du côté de ma mère, c'était chez Chloé. Donc, il y a eu tous les stylistes qui ont défilé chez Chloé, même avant Karl Lagerfeld. Et donc, j'allais beaucoup chez... Voilà, où il y avait la maison Chloé. À l'époque, c'était rue de Miroménil, tout au début. Et voilà, et j'ai connu pas mal de gens qui étaient dans ce milieu-là, oui.
Tout est détruit, on peut le dire comme ça.
Et j'ai les amis de mes parents, parce que les amis de mes parents ont des enfants qui sont mes amis d'enfance. Donc, il y a tout ce monde, quoi, qui est des amis d'enfance, la galerie, l'enfant roi, on me gâte, on m'offre un cinéma, on m'offre un train électrique. Et la maison, qui est 75 mètres carrés, je suis le point de mire, quoi. Voilà, je suis le... Et j'ai une liberté totale. Et tout ça disparaît.
Vole en éclat
à l'âge de 10 ans. Mes parents se séparent, mon père quitte la maison et vient s'installer un monsieur qui est donc le nouveau compagnon de ma mère et qui est un monsieur peu sympathique, violent et autoritaire. Et à ce moment-là, tout disparaît. On passe de la période rouge à la période blanche de Fanny Alexandre. Mon père vend sa galerie à ce moment-là. Il n'y a plus la galerie. Comme ils n'ont plus la galerie, les gens qui venaient dîner chez mes parents ne viennent plus dîner. Voilà, puisqu'en plus, la personne, cet homme-là est insupportable et personne ne le supporte et donc personne ne vient dîner. Donc, tous les amis, vous voyez, les intellectuels, Claude Roy, j'ai oublié de le mentionner, Courtade, ne viennent plus. Donc, ils ne viennent plus à la maison, ils ne viennent plus à la galerie. Donc, les enfants, je ne les vois plus. Et donc, tout ce monde disparaît. Je n'ai plus la liberté de parole à table. Je dois faire attention à ce que je dis. On me fait comprendre que je n'ai pas le droit de parler, vraiment. On me fait comprendre que le tourne-disque, j'ai plus accès. La musique, j'ai plus accès. C'est plus moi qui mets les disques. Et les cadeaux que je reçois, je dois les donner à cet individu. Je n'ai pas le droit d'avoir des cadeaux. Donc, quand on me donne un cadeau, je dois lui donner. Et voilà. Et l'après-midi, donc c'est un peu lui ne travaille pas. Et l'après-midi, pendant que ma mère est chez Chloé, il fait venir des filles. Et il me dit, si tu dis quoi que ce soit, tu es mort. Donc, il me maintient dans une espèce de terreur. Et il prend toute la place surtout, c'est-à-dire que la musique, c'est sa musique, à tue-tête, je n'arrive pas à me concentrer. Et mon espace devient ridiculement petit, c'est-à-dire qu'il se rétrécit à tel point que je me rétrécis. Si on regarde des photos de moi entre 0 et 10 ans, je suis un garçon épanoui, sûr de moi, conquérant, le monde m'appartient. Et entre 10 et 15 ans, je deviens courbé, je deviens complexé, j'ai l'impression que je n'ai pas le droit de parler, j'ai le droit à rien, quoi. Qu'en fait, je ne suis rien. Et mes notes chutent à l'école. Et je deviens une petite chose.
Comment réagissait votre mère? Elle était sous emprise
Ma mère était totalement sous l'emprise de cet homme. Elle ne voyait rien. Et elle a laissé la sphère. Et ce qui s'est passé, c'est que... Voilà. Et ça a duré 5 ans. Et je pense que j'ai stagné intellectuellement pendant 5 ans. Et c'est des années importantes. Vous savez, entre 10 et 15 ans, ça compte beaucoup. Et je pense que j'ai perdu 3, 4, 5 ans de ma vie.
Au collège non plus, personne.
Alors, au collège, il y avait quelques profs qui étaient bons. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'en seconde... Donc, quand j'arrive à l'âge, près de l'âge de 15 ans, alors il y a un retournement. Et ce qui se passe à ce moment-là, il y a plusieurs événements heureux. D'abord, j'ai un prof de français extraordinaire qui s'appelle Azoulay, Philippe Azoulay, qui a marqué beaucoup de gens. Raphaël Antoven a écrit un livre, il y a un chapitre entier sur Azoulay. Pascal Richer, qui est au Monde, il a eu Azoulay. J'ai mon copain Franck Nouchi dans ma classe. On peut parler d'Azoulay. C'est un prof qui a marqué. J'étais à Henri IV la semaine dernière. Azoulay a marqué des générations.
Vous étiez au lycée Henri IV à Paris.
J'étais au lycée Henri IV, c'est mon lycée de quartier. Hein, voilà. Et il nous a marqué. Donc, c'est un prof qui était extraordinaire. Et là, il donnait des devoirs à faire. Et mon père, j'ai réalisé que j'arrivais pas à écrire le français correctement. Et mon père a pris conscience de ça. Et donc, mon père m'a mis au français, à l'écriture du français. Et la combinaison d'Azoulay et de mon père fait que j'ai appris à écrire le français vraiment. Et j'ai décidé que j'allais devenir premier de la classe, quoi. Voilà. Et d'un coup, j'ai la remontée, quoi. C'est ma remontada à moi. Azoulay, mon père qui m'apprend à écrire le français. Et arrive à ce moment-là, dans ma vie, mon cousin Gabriel Aguillon. Vous avez peut-être vu Pédale douce ou Belle Maman. C'est un merveilleux cinéaste. Et il est passionné de cinéma comme moi, je le suis. Je fais des films en Super 8 et lui aussi. Et on partage cette passion du cinéma. Et il me fait rire. Et Gabriel amène la fantaisie et le rire. Et tout d'un coup, je rentre à nouveau dans le rouge. Mais évidemment, je dois affronter l'ami de ma mère. Et à ce moment-là, Il demande, comme d'habitude, que je lui donne des choses. On revient de vacances avec ma mère, avec une mandoline turque, hein, qui coûte pas très cher. J'ai 15 ans, il me dit, tu vas dormir, tu vas au lit à 8 heures du soir, tu me donnes la mandoline, un acte d'autorité pure. Et à ce moment-là, je lui dis, non, maintenant, c'est terminé. Ces jeux pervers entre nous, c'est fini. Et c'est, je me suis libéré. Ça m'a coûté un bras cassé. J'ai eu le bras cassé. Il m'a cassé le bras, mais j'ai eu ma liberté. Ma mère est restée complètement passive. Elle l'a vu me tabasser. Elle n'a absolument pas réagi. Et elle a même essayé de me blâmer au départ. Ce n'est que 3 semaines plus tard, quand mon bras n'avait pas dégonflé, qu'on est allé à l'hôpital américain, qu'on a vu qu'il y avait fracture avec déplacement, que ma mère m'a acheté un tourne-disque et à nouveau j'ai pu mettre des disques. Au bout de 5 ans, il a fallu l'hôpital américain.
Philippe Aillon.
Elle était totalement sous emprise. Donc à la fois, elle était femme de pouvoir chez Chloé et complètement soumise à un homme peu intelligent et peu sympathique à la maison.
Une question de tarot en vous écoutant. Il était impossible, dans ces années-là, que vous alliez chez votre père ?
Ben, mon père, il était un homme adorable, mais il n'était pas capable d'assumer chez lui. Il ne pouvait pas assumer vraiment. C'était ça. Alors mon père venait, je le voyais régulièrement, donc il m'amenait, par exemple, il m'amenait au cinéma, voir le 2001, l'Odyssée de l'espace, quand c'est sorti. Il m'amenait en voyage au Danemark, en Hollande. Il m'amenait voir des films. Donc il y avait quand même des choses de mon père, vous voyez, pendant cette période. Mais c'était ponctuel. Il n'était pas capable vraiment, lui, chez lui, d'avoir quelqu'un. Voilà. Il avait une vie compliquée.
Bon alors, vous êtes au lycée Henri IV, vous commencez votre remontada, le
déclic
s'est fait, vous apprenez à bien écrire le français.
Voilà.
Qu'est-ce que vous aimez à ce moment-là, à part le cinéma, donc avec votre cousin ?
J'ai aussi une troupe de marionnettes, vous voyez, il y avait une troupe de marionnettistes au lycée Henri IV, donc je fais partie de cette troupe de marionnettes. Et on voyage, on fait le Petit Prince, justement, on fabrique les marionnettes nous-mêmes avec une marionnettiste hongroise et une comédienne française qui s'appelait Sylvine Delannoy. Et avec cette troupe de marionnettes, on construit les marionnettes nous-mêmes du Petit Prince. Et moi, je joue la rose et le renard. Alors, j'avais une voix aiguë, je pouvais faire la rose. Évidemment, à un moment donné, je mue, comme on dit, et je ne peux plus faire que le renard. Voilà. Et on partait en tournée en Hongrie, en Allemagne, et en Aveyron, en Haute-Loire. Et ça a été aussi une partie. Dans ces 5 ans, je dois dire qu'un des points, d'orgue, ça a été cette troupe de marionnettes qui aussi m'a amené beaucoup de chaleur et de. Voilà. Ça a été le moment heureux de cette période-là.
Est-ce que vous diriez que, au fond, vous étiez à ce moment-là, en tout cas, plutôt littéraire, plutôt
tourné
vers l'art ?
Non, j'aimais bien les maths. J'étais bon en maths.
À quel moment ça s'est déclenché, ça ?
Les maths. Ouais. J'ai toujours aimé les maths. J'ai toujours été bon en maths. Même quand mes notes ont chuté, elles n'ont jamais chuté en maths. J'étais toujours dans les premiers en maths.
Qu'est-ce que vous aimiez dans les maths ?
Oh, ben, le côté,
un prof, déjà ?
Le côté ludique. C'est ludique, les maths. On s'amuse, quoi. C'est des jeux.
Ça veut dire que vous aviez un bon professeur, parce qu'il y a peu de gens quand même qui
j'ai eu des profs. J'avais une très bonne prof en 6e qui déjà nous avait fait apprendre les équations, déjà très tôt, avant que les autres le fassent. Et puis j'ai eu des profs, oui, il y a M. Gozzi qui était très bien. J'ai eu plutôt des bons profs de maths, oui, oui, oui. J'aimais bien les maths. Ouais.
À l'époque, donc si on se remet dans ces années-là où vous êtes encore un jeune homme, Philippe Aillon, entre ce français grâce à Philippe Azoulay, qui vous a fait aimer le latin aussi.
C'était oui, un prof absolument. De français latin. Le latin était une langue vivante. Et puis il avait une manière d'enseigner. Et en fait, les gens disent que j'enseigne comme lui. Je bouge beaucoup, je saute beaucoup. Et lui enseignait comme ça. En fait, j'ai pris sa méthode d'enseignement pour capter l'attention. Si on me voit au Collège de France, les gens qui me voient reconnaîtront la méthode Azoulay. Quoi.
Donc entre...
Donc j'ai vraiment Azoulay en moi, quoi. Ouais, en permanence.
Donc entre cette matière-là, où c'est en tous les cas le goût de l'enseignement qu'il arrive à vous transmettre déjà.
Oui, absolument.
Le plaisir, le côté ludique, vous dites, des maths.
Voilà.
Le cinéma, le théâtre
voilà.
Avec les
voilà, à nouveau,
marionnettes.
Je me recrée à une période rouge, en fait. Je rentre à nouveau dans la période rouge, voilà.
Est-ce que déjà, vous savez vers quoi vous voulez aller ? Quelle est votre plus grande sensibilité ?
Non, mais et alors également, je m'engage politiquement. Mais alors l'engagement politique, je suis très influencé par mon papa, hein, évidemment, hein. Mais je m'engage politiquement dès l'âge de 16-17 ans. Et je vais aux jeunesses communistes et après au Parti communiste. Et j'adhère au Parti communiste en 1974.
Donc il y a en plus la politique.
Et en plus la politique. Donc je fais le cinéma, marionnette, politique et l'école. Mais j'ai quand même... Voilà, ça fait une vie très pleine et passionnante.
C'est une vie pleine et passionnante, mais comment le jeune homme que vous êtes à l'époque l'occupe-t-il ? Quel jeune homme vous êtes-vous à ce moment-là ?
Je ne sais pas trop ce que je suis encore. Je ne suis pas encore bien défini, voilà. Je sais, voilà, il y a différentes choses qui me passionnent. Je suis ma passion, mes passions, le cinéma, la politique, voilà. Mais je ne sais pas encore ce que je vais devenir.
Est-ce que ces années, alors vous dites la période blanche, j'allais dire ces années noires, mais des 10-15 ans, vous ont Ouais.
Résilient. Ce que ça m'a donné, c'est que d'abord, j'ai su que ça se passerait mal. Je ne savais pas que j'aurais un bras cassé, mais je savais que ça se passerait mal. Je savais que ma liberté, j'allais la conquérir, pas gratuitement. Hein. Mais ça m'a rendu résilient. Et ça m'a aidé beaucoup après, parce que j'ai eu à affronter d'autres choses. Et je me suis dit, je vais me battre, quoi. Je vais me bagarrer. J'aurais pas eu le prix Nobel si je m'étais pas bagarré. J'ai eu des vents contraires sur le chemin du prix Nobel, quoi. J'ai eu des gens qui ont essayé de prendre nos idées, de se les approprier, des gens qui ont essayé de nous imiter. J'ai eu des gens qui ont essayé de nous oblitérer. J'ai eu toutes sortes de peaux de banane. Et je me suis dit, je vais me bagarrer, quoi. Et je pense que ça, ce côté bagarreur, je le tiens en partie de cette période. C'est-à-dire un côté, je dois survivre et je dois me battre.
Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit, Philippe Aguillon, à un moment, là, maintenant, hein, peut-être même, vous vous êtes dit, quand même, la théorie que je développe, on en parlera bien sûr oui. dans le troisième épisode de Ces abonnés, mais la théorie que je développe, c'est la théorie de la destruction créatrice. Et est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit, mais...
Pas à ce moment-là,
c'est un peu non. Non, est-ce que c'est un peu l'histoire de ma vie?
Alors moi, j'ai fait beaucoup de destruction créatrice dans ma vie, ça c'est clair. Il y avait l'idée de je dois faire les pas de côté, quoi. J'ai eu beaucoup de pas de côté dans ma vie, voilà. On en reparlera dans ma trajectoire. J'ai fait beaucoup de choses qui n'étaient pas ce qu'on fait normalement. Voilà, par exemple, même étudiant à cette époque, faire et du cinéma et des marionnettes et de la politique et de l'art, c'était beaucoup, quoi. Donc, c'est des pas de côté un petit peu déjà. Et j'étais quand même très motivé politiquement et je savais que la pauvreté était quelque chose qui me révoltait. Et je voulais amener de la prospérité partagée. L'idée de la prospérité pour tout le monde était déjà une idée que j'ai depuis cette époque. Voilà. Alors après, comment on atteint ce but, ça va changer. Mais l'idéal de la prospérité partagée, je l'ai depuis cette époque.
Bon, en tout cas, vous faites un choix dans ces années-là. Vous faites des maths. Vous commencez par faire des maths.
Oui, parce que alors on fait des maths parce qu'on se dit c'est ça maximise la valeur d'option, comme on dit. Vous savez, si je fais maths sup, je peux faire plein de choses à partir de là. On était bon, on allait en maths sup. Si on était plutôt littéraire, on allait en cagne. Mais moi, disons, bien qu'ayant appris à écrire le français quand même, j'étais plutôt matheux quand même. Et donc, je vais en maths sup, je fais maths sup, maths sp, les prépas mathématiques Henri IV.
Et vous entrez à l'école normale supérieure à
alors,
l'époque
en Cachan. En 5,5, parce que je rate beaucoup de concours avant.
Et 5,5, ça, parce que je ça perds, veut dire quoi?
Ça veut dire que je fais deux fois la maths sp. Je la redouble parce que je présente que quelques concours normal sup au départ et je ne les réussis pas et je réussis les concours en 5,5, c'est-à-dire en deuxième année de mais comme j'avais sauté une classe avant en fait j'intègre à l'âge normal quoi parce que j'avais sauté le CE2 à l'école primaire donc en fait voilà ça me fait
ça
une
rattrape.
Année de, je rattrape
ça voilà. Rattrapait votre ça avance rattrape.
Donc je voilà j'ai raté plein de concours je rate souvent mais je perds mes moyens à l'oral souvent j'ai peur à l'oral ça c'est un des grands problèmes donc je rate souvent à l'oral je perds mes moyens et voilà donc je rate pas mal de concours mais finalement je rentre à l'école de Cachan l'école normale de Cachan qui maintenant est l'école de Paris-Saclay que les gens de Ulm regardent de haut. Enfin, avant. Maintenant, on se disait avec Alain Aspect, qui est prix Nobel de physique et qui vient de Cachan, ou avec Marc Fontcave, qui est nobelisable en chimie et qui vient de Cachan, il y a eu d'autres prix Nobel. On se dit, finalement, maintenant, ils vont plus nous la faire. On est aussi bons qu'eux, quoi. Donc, on est aussi capable qu'eux qu'avoir des prix Nobel. Mais il y avait un snobisme des gens de Ulm à l'égard des gens de Cachan. Comme l'école des mines, ils regardent de haut l'école des ponts, quoi. C'est même des ça, gens c'est... de gauche, même des gens de gauche, c'est ça qui est très intéressant. Vous avez des gens de gauche de Ulm, ils nous regardent de haut. Ils se disent égalitaristes, mais ils ne le sont pas, en fait. Ils sont hyper corporatistes.
Et c'est aussi une spécificité française.
C'est très français. On est en fait très inégalitaire.
Vous disiez, Philippe Aguillon, qu'à cette époque-là, en tout cas, vous n'étiez pas bon à l'oral. Alors déjà, encore une fois, vous vous êtes bien rattrapé. Mais c'est quand même effectivement l'oral de la grecque de maths qui vous fait échouer à la grecque en 1980.
Oui, alors c'était voilà absolument. J'avais l'écrit, j'avais passé l'écrit, j'avais pas fait l'écrit formidable, mais bon, j'avais passé un écrit. J'avais un premier oral en analyse, et puis j'ai eu mon oral d'algèbre, et j'ai été traumatisé par cette leçon d'algèbre. Je la connaissais, et je perds mes moyens sur une leçon que je connais, et je suis décontenancé. Et il y a une réponse que j'avais au bout de la langue. Je connaissais parfaitement ma leçon d'algèbre. Et malgré ça, je ne réussis pas ma leçon d'algèbre. Et j'ai revu cette leçon d'algèbre dans mes rêves pendant longtemps. Et c'est là que j'ai connu votre papa. J'ai pas le droit de le dire. Ça, je peux le dire quand même.
Si vous voulez.
Puisque votre père était dans le jury. Voilà. Et dont j'ai su après que t'es un homme tout à fait sympathique. Et donc, c'était pas, mais c'est moi qui perdais mes moyens, probablement, oui.
Est-ce que vous diriez que c'est en partie cet échec qui vous a fait bifurquer vers l'économie?
Non, j'avais déjà bifurqué vers l'économie en partie, puisque dès mon intégration à l'école normale, je m'étais engagé dans un cursus d'économie en parallèle. Parce que mon engagement politique, faisait que je voulais comprendre l'économie. Je voulais mieux comprendre le monde pour mieux le transformer, en fait. Et je voyais des dirigeants politiques tenir des raisonnements économiques tous apparemment logiques et arrivant à des conclusions opposées. Je me dis, comment je peux savoir qui a raison et qui a tort? Et donc, j'ai commencé à me questionner en économie. Donc, dès mon intégration à l'école normale en 76, beaucoup sous l'influence de mon cousin germain qui était Pierre Salama, qui était lui à la Ligue communiste révolutionnaire, mais qui était aussi un très bon économiste marxiste à l'époque, je m'engage dans un cursus d'économie. Et au début, je l'ai eu comme prof lui-même, en fait. Et j'ai commencé l'économie avec lui.
Donc, voilà. Troisième cycle, thèse voilà. D'économie mathématique, d'ailleurs, on dit. Hein.
Alors, ce qui est passé, c'est que d'abord, je fais une licence d'économie, d'accord. On pouvait faire la licence d'économie en accéléré.
Privilège
au lieu de 3 ans, on pouvait la faire en 2 ans. Voilà, et ça, Pierre Salama m'a beaucoup montré comment faire ça. Et donc, je fais cette licence en 2 ans. Et plus tard, je démarre un diplôme d'économie approfondie, un DEA, en économie mathématique, parce que je veux utiliser le fait que je sais des maths, quoi. Et donc, grâce au fait que je sache des maths, je pouvais aller en économie mathématique. Et à Paris 1, à Panthéon-Sorbonne, il y avait un DEA d'économie mathématique. Et donc, je me suis inscrit dans ce DEA.
C'est exactement ça que nous allons creuser dans le deuxième épisode, Philippe Aguillon, puisque oui. Vous allez partir aux États-Unis à Harvard, entamer votre carrière avec le succès que l'on connaît. Mais on va creuser cette idée du passage entre les mathématiques et l'économie et puis commencer à regarder d'un peu plus près la carrière que vous avez menée. Ça sera l'épisode suivant. Merci beaucoup.
Merci.
À suivre l'épisode 2 des mathématiques à l'économie. À demain.
À demain.
C'était À Voix Nue avec Philippe Aguillon, réalisation Manouchak Fachaï, prise de son Clément Vuillet, chargée de programme À Voix Nue Daphné Abgral, une série de Caroline Brault est disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.